Vous savez que dans la parole, nous trouvons beaucoup de prières que des hommes de Dieu ont fait à certains moments de leur vie. Et des fois, c'est bon de reprendre exactement les mêmes prières. Ça ne veut pas dire prier sans réfléchir, mais de reprendre les prières qui ont été faites et de réfléchir justement à pourquoi ils ont fait de telles prières. Et dans le psaume 139, nous voyons une de ces prières que David a faites au verset 23. Psaume 139, verset 23. Il est dit ceci: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Vous connaissez ce passage? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé comme un support pour votre prière? Moi, je le fais souvent. Et combien c'est bon de demander au Seigneur qu'il nous indique si on est sur la bonne voie, de faire une sorte de check-up spirituel. Vous savez, je crois que c'est la Sécu qui offre une fois par an un check-up complet pour savoir si on a une bonne santé, parce qu'ils préfèrent prévenir que guérir, comme on dit. Ça revient moins cher de prévenir la maladie que de la traiter une fois qu'elle est là. Mais combien c'est bon de le faire d'un point de vue spirituel aussi et de poser cette question au Seigneur: regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Cet après-midi, est-ce que ce n'est pas l'occasion? Est-ce que cette réunion n'est pas l'occasion pour chacun d'entre nous de se poser la question: Seigneur, est-ce que je suis sur une mauvaise voie ou sur une bonne voie? Est-ce que vous pouvez y répondre dans votre cœur? Je ne vous demande pas de le dire à autre voix. Est-ce que vous savez exactement si vous êtes sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie? Est-ce que vous avez une assurance ou est-ce que peut-être vous êtes tout simplement dans l'ignorance? Comment est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est le fait de venir à l'église cet après-midi qui nous fait dire qu'on est sur la bonne voie? Ça peut être oui, ça peut être non. On peut être là par tradition, on peut être là parce qu'on a soif de Dieu. Qu'est-ce qui est déterminant? Est-ce que c'est la position géographique qui nous montre si on est sur la bonne voie, si on marche sur la voie de l'éternité? Ou est-ce que ce n'est pas la position spirituelle qui est au fond de notre cœur, de savoir ce qui se passe à l'intérieur? Justement, c'est ce qu'il est dit dans cette prière: « Sonde-moi, ô Dieu ». Ça veut dire: « Seigneur, regarde ce qu'il y a au fond de mon cœur. Connais mes pensées, éprouve-moi, révèle ce qu'il y a au fond de mon âme et que je puisse savoir si je suis sur la bonne voie. » Vous savez qu'il y a dans la parole de Dieu des hommes qui ont voulu marcher avec Dieu, qui ont eu un témoignage incroyable, mais même au meilleur de ces hommes, ça leur est arrivé de passer par des moments où ils étaient sur une voie glissante. Ils se sont retrouvés dans des endroits compliqués. Il y a un jeune homme, on peut le lire dans Luc chapitre 15, un jeune homme qui avait pourtant une bonne situation. Il partait avec de belles richesses, il avait un beau projet de vie et il s'est retrouvé à un mauvais endroit, un très mauvais endroit, un endroit où ça ne sentait pas bon. Parce qu'il était auprès des cochons. Et vous voyez de qui je veux parler. Luc chapitre 15, verset 11. On peut relire rapidement ce passage. Il dit encore, Jésus donc dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et on arrête là notre lecture pour le moment. Est-ce que c'était un endroit confortable à ce moment précis où on a arrêté la lecture? C'est ce garçon qui se retrouve là, on imagine qu'il a les vêtements tout usés par son travail, on imagine l'odeur qui est là, on imagine la faim qui le tenaille, et alors qu'il voit les cochons qui sont en train de se nourrir, est-ce que c'était un endroit confortable? Est-ce que c'était un bon endroit? Et est-ce que c'était la volonté de Dieu? Je vous ai donné trois questions en une. Et on comprend que s'il s'est retrouvé là, c'est parce qu'il a fait des mauvais choix. Voilà pourquoi il faut dire au Seigneur: sonde-moi et connais mon cœur, parce que souvent les endroits dans lesquels on se trouve, et qui sont de mauvais endroits, ils découlent tout simplement, ce sont les conséquences des choix que nous avons faits auparavant. Ce jeune homme, pourtant, il était dans une situation remarquable au début, mais parce qu'il a fait des mauvais choix, il a choisi, par exemple, de mépriser tout l'enseignement que son père lui a donné. Il a choisi de faire à sa tête. J'en ai assez de mes parents, j'en ai assez des ordres qu'ils me donnent, je veux, moi, goûter à la vie. Je veux profiter de la vie. Et ça, on l'entend encore aujourd'hui. Et si vous posez la question au dehors à des jeunes hommes ou des jeunes femmes, c'est exactement ce qu'ils vont vous dire. Et on est prêt à remettre en question toutes sortes de choses. On est prêt à passer par-dessus tout l'enseignement que peut-être les parents qui sont au Seigneur veulent apporter à leurs enfants. Et on se retrouve à un moment donné au fond du gouffre parce que le Seigneur, même s'il nous aime, il permet que des fois la voie glissante, au travers de la voie glissante, on touche le fond parce qu'à ce moment-là, on va faire quelque chose qui va lui permettre d'intervenir. On va faire ce que ce jeune homme il a fait, rentrer en nous-mêmes. Est-ce qu'à ce moment où il est rentré en lui-même, est-ce que ce n'est pas à ce moment où il aurait pu dire « Seigneur, sonde de moi ». Et il a commencé, avant de laisser le Seigneur, il n'a pas attendu « Seigneur, vas-y, sonde de moi ». Moi, je m'occupe du reste. Il a dit « Seigneur, sonde de moi », mais il a commencé à se sonder lui-même. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à se poser des questions et à se dire « Mais oui, finalement, si j'étais resté même auprès de mon père simplement en tant qu'un ouvrier, j'aurais une meilleure situation que si j'avais que ce que j'ai fait jusqu'à présent. » Et alors qu'il était là et qu'il entendait les cochons grogner en se gargarisant de leur nourriture, et il a commencé à faire ce qu'il fallait. Il y a des attitudes qui plaisent à Dieu et qui permettent à Dieu que quel que soit le mauvais endroit où on se trouve, quel que soit l'endroit qui est la conséquence de notre péché où on se trouve, le plus terrible soit-il, Dieu peut nous en sortir. Parce que Dieu est un Dieu qui nous aide et qui nous aime. Étant rentré en lui-même au verset 17, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et vous voyez que ce jeune homme, il ne s'est pas contenté d'avoir des bonnes dispositions, il ne s'est pas contenté de faire des bonnes résolutions, mais il dit « Je me lèverai » et le verset 20 nous dit « Il se leva ». Il alla vers son père et il commence à faire tout ce qu'il a prévu de faire. Des fois, on voit des personnes qui ont de bonnes dispositions, qui voudraient faire de belles choses, mais qui jamais ne commencent à le faire, à le mettre en pratique. Ce jeune homme, il a choisi tout simplement de décider, il a décidé d'aller vers son père. Il est allé vers son père, il a décidé de lui dire quelque chose, il a commencé à lui dire « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père, le couple, lui dit « Apportez la plus belle robe. » Parce que le Seigneur, il connaît notre cœur, il n'a pas besoin qu'on lui explique la situation, il savait ce qui se passait. L'image de ce père, c'est l'image de Dieu qui nous attend, et qui attend même quand on est dans le pire endroit. Le Seigneur est celui qui nous attend et qui nous regarde avec le cœur rempli de compassion, toujours sur la garde pour pouvoir venir à notre secours dès l'instant où nous-mêmes on fera le premier pas de revenir vers lui. Combien notre Dieu est merveilleux. Mais voilà ce qui l'en a coûté, c'est qu'il rentre en lui-même. Est-ce que cet après-midi nous sommes capables de rentrer en nous-mêmes? Est-ce que cet après-midi nous sommes capables de réfléchir sur les conséquences de ce que nous avons fait? Pensons à ce jeune homme, par exemple, qui est dans le ventre du poisson, Jonas. Vous le connaissez, Jonas? Moi, il y a quelque chose qui m'embête avec Jonas. Enfin, ce n'est pas avec Jonas lui-même. C'est avec les représentations qu'on fait de Jonas dans le ventre du poisson. C'est qu'à chaque fois qu'on voit l'image dans les livres pour les enfants, on a l'impression que c'est super. On a l'impression que c'est une chambre de luxe dans le ventre du poisson. On a l'impression qu'il y a un canapé, il y a la lumière, il y a tout ce qu'il faut, et que Jonas, il est là à genoux, mais comme s'il n'y avait aucune peine. Alors que, imaginez un instant, bon, il vient d'échapper à la noyade, et il est encore vivant, c'est déjà merveilleux. Mais il est quand même dans le ventre d'un gros poisson, au fond de l'océan. Et moi, j'ai appelé cet endroit le lieu de l'obscurité, parce qu'il n'y avait sûrement pas le courant. Je pense pas. Il n'y avait pas de canapé confortable. Même si le poisson était capable d'avaler toutes sortes de choses, ça n'existait pas à l'époque. Et il était sûrement en étroit dans ce ventre. Il était sûrement dans une situation totalement inconfortable. Il ne fallait pas qu'il soit claustrophobe. Hein. Il était dans les ténèbres. Il ne savait pas, lui. Nous, on connaît l'histoire. On sait qu'au bout de 3 jours, le poisson, il a recraché. Lui, il ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et donc, des fois, on est dans des situations totalement inconfortables comme Jonas. Mais nous, comme on connaît l'histoire de Jonas, on ne fait pas le parallèle. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait ? Quelle était la seule chose, d'ailleurs, qu'il pouvait faire dans le ventre du poisson ? Il ne pouvait pas faire 150 choses. Il ne pouvait pas offrir de sacrifices. Il ne pouvait pas faire peut-être chanter des cantiques. Il pouvait le faire. Mais il n'était pas accompagné de super musique. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait que invoquer le nom du Seigneur. Il n'a fait que prier. Et pourtant, c'était la seule chose qu'il devait faire à ce moment-là. Est-ce que c'était un bon endroit ? Non. Mais dès l'instant où Dieu a vu que cet homme a fait l'attitude, a eu l'attitude de cœur de prier dans ce ventre du poisson, le Seigneur a parlé au poisson pour qu'il le recrache. Et Jonas s'est retrouvé à la case départ parce qu'il a... Quelle était la cause de pourquoi il s'est retrouvé dans le ventre du poisson ? C'est parce qu'il a désobéi. Il a désobéi à Dieu. Dieu lui disait, va voir les Ninivites, prêche-leur l'évangile. Et lui, il a dit, non, je ne veux pas qu'ils se convertissent. Je sais que si je prêche, il avait de la foi. Je sais que si je prêche, toi, tu vas les pardonner, Seigneur, parce que tu es un Dieu plein de miséricorde. Mais il ne voulait pas. Et il a filé dans l'autre sens, et il s'est retrouvé là. Et des fois, on se retrouve dans des situations à l'étroit, compliquées, on ne sait pas ce que l'un sera pour demain. On est totalement dans l'obscurité. Et peut-être que c'est le meilleur moment pour dire, Seigneur, regarde ce qu'il y a au fond de mon cœur. Est-ce que vous croyez que dans ce ventre du poisson, Jonas, il n'a pas eu le temps de réfléchir aussi ? Je crois qu'il a pu faire que ça, réfléchir. Et se dire, mais oui, mais si j'en suis là, merci Seigneur, il m'a sauvé la vie. Mais si j'en suis là, c'est à cause de ma désobéissance. Et peut-être qu'on a besoin cet après-midi, chacun pour notre part, de dire, mais tiens, si j'en suis là, est-ce que ce n'est pas parce que je refuse de faire ce que le Seigneur me demande ? Et j'essaye, je lutte pour essayer de m'en sortir. Vous croyez qu'il n'a pas essayé de cogner le poisson pour que lui faire mal, pour s'en sortir par ses propres forces ? Peut-être essayer de crier. Au secours, il y a quelqu'un ! Mais vous imaginez au fond de l'océan, qui c'est qui pouvait l'entendre ? Il n'y avait que Dieu. Et il y a des fois où Dieu nous met dans des situations, où nous laisse nous mettre nous-mêmes dans des situations, parce qu'il veut qu'on arrive au bout pour qu'on puisse crier à lui. La prière, c'est le cri du cœur. La prière, c'est ce moment où on dit au Seigneur, tu connais mon besoin, tu vois, Seigneur, j'ai aucun autre secours possible sur la terre, Seigneur, c'est vers toi que je me tourne. Quand on prie de cette manière, laissez-moi vous dire que le Seigneur, il entend. Quand on prie avec le cœur qui est totalement touché, totalement impliqué, alors le Seigneur se plaît à entendre notre prière. Je pensais à toutes sortes de situations, je ne vais pas toutes les énumérer, mais par exemple, Pierre qui est assis près du feu. Est-ce que c'est confortable ? Ben oui, vous n'êtes jamais assis près du feu ? Alors que la nuit est un peu fraîche, là, on s'approche du feu, c'est sympa. Ça, c'est chaleureux. Mais dans ce contexte-là, quand on connaît l'histoire, on sait que Pierre, près du feu, il n'a pas vécu un bon moment. Il a fait tout l'inverse de ce qu'il pensait faire. Lui qui avait dit, Seigneur, moi je mourrai avec toi. Peut-être qu'au lieu d'être près du feu, il aurait dû être à côté du Seigneur Jésus, s'il avait tenu bon. On ne sait pas ce qu'il aurait pu faire. Mais on sait qu'en tout cas, il s'est retrouvé là, et que dès que quelqu'un d'impressionnant, un garde avec des épées comme ça, a commencé à lui dire quelque chose, c'est ça l'histoire ? Non, non, c'est une toute petite femme, une petite servante, qui lui dit, toi tu étais avec Jésus. Il s'est mis à trembler comme une feuille. Non, 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 c'est pas moi, c'était sûrement mon jumeau ou un sosie, c'est pas moi. Et à trois reprises, celui qui avait dit, je mourrai avec toi Seigneur, il a renié, il a dit, je ne connais pas cet homme. Est-ce que vous croyez qu'assis près du feu, finalement, c'était un bon endroit pour Pierre ? Nous voyons que ce n'était pas un bon endroit. Mais nous voyons aussi qu'il n'est pas resté là. Voyons le soin du Seigneur Jésus qui est venu le voir et qui lui a posé trois fois la même question. Pierre, m'aimes-tu? Et peut-être que cette question, c'est bon que nous puissions nous la poser, que le Seigneur puisse nous la poser cet après-midi. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? S'il a pris à trois reprises la même question, c'est pour qu'on se pose la question de manière sérieuse. Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Je me souviens dans ma vie, quand Dieu m'a montré un jour que je ne l'aimais pas. Je faisais semblant, j'avais l'apparence de quelqu'un qui l'aimait. J'allais à l'église, je chantais les cantiques, mais je savais que je n'aimais pas passer du temps à la réunion. Dès que le Amen final retentissait, on était le premier avec ma grand-mère à... On faisait la course pour se retrouver au fond de la salle, pour saluer en premier le pasteur. Et un jour, Dieu m'a interpellé, il m'a dit, mais quand tu aimes quelqu'un, tu aimes être avec lui. Et je me rendais compte que je n'aimais pas être avec Dieu. Je n'aimais pas la communion de frères et sœurs. Et j'ai dû dire, Seigneur, pardon, pardonne-moi. Comme Pierre a dû le dire au Seigneur, dans son cœur, au moment où ils ont les regards qui se sont croisés et que Pierre a pleuré amèrement, il s'est rendu compte de son péché, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur a voulu le rétablir, le restaurer simplement par cette question. Pierre, m'aimes-tu? Et cet après-midi, si nous sommes capables de dire oui à cette question, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, c'est vrai que j'ai mes failles, c'est vrai que j'ai mes défauts, mais par ta grâce, par ta force, par ton esprit qui a agi en moi, Seigneur, je peux maintenant être capable de t'aimer. Si nous sommes capables de faire cela, alors le Seigneur, lui, va s'occuper de notre cas. Je continue avec ce dernier exemple d'un mauvais endroit, David, qui se trouve sur la terrasse. Est-ce qu'on a le droit de se prélasser sur une terrasse? Ça dépend. Ça dépend quand. Si c'est le dimanche matin à partir de 9h30, bon, il faut se questionner. Mais si c'est pendant nos vacances et qu'on se trouve au bord d'une piscine et que... Ben voilà, c'est pas mal en soi. Oui, mais voilà le problème de cet homme, David. Le problème, c'est qu'il s'est prélassé sur sa terrasse alors que c'était le temps où les rois se mettaient en guerre. C'était le moment où son armée elle-même était en train de combattre. Et lui, le roi, il était resté à Jérusalem, il était resté bien tranquillement installé sur sa terrasse. Et est-ce que ça a porté de bons fruits, cette attitude? Est-ce que la paresse, parce que là, c'est que de la paresse, le fait de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'on se dit, on verra ça plus tard, est-ce que ce n'est pas de la paresse? En tout cas, David, pourtant qui à d'autres moments a été un homme, un héros, rempli de force de l'Éternel, qui a fait des exploits magnifiques, à ce moment-là, il a été paresseux. Et le résultat, ça commence par la paresse, mais vous avez vu après ce que c'était. Il a aperçu une femme qui se baignait, il y a eu la convoitise qui a été engendrée par cela, et puis plus loin encore, ça a été l'adultère, et encore quelque chose de pire, c'est qu'il a tué un homme, fait tuer un homme. Est-ce que ce n'était pas un mauvais endroit pour David? Oh, on l'a connu, quand il était avec Goliath, là c'était un bon endroit, il était dans la volonté de Dieu, c'était parfait. Les victoires, les chants qui chantent. Saül a tué 1000 hommes, mais David, il en tue 10 000. Là, c'était quelque chose de magnifique. Mais là, dans ce moment, il y a des moments, frères et sœurs, il y a des moments où on peut emprunter des voies qui sont glissantes. Et c'est pour ça que c'est bon de faire cette prière. David le savait, de faire cette prière. Regarde si je suis sur la voie de l'éternité. Si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Vous croyez qu'il ne serait pas bon à ce moment-là que David fasse cette prière, justement? Est-ce que ça ne l'aurait pas préservé de beaucoup de choses? Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et Dieu l'aurait dit, mais oui, tu es sur une mauvaise voie. Arrête-toi tout de suite, retourne avec ton armée, retourne avec tes généraux là-bas. Mais cet homme a persisté. Mais ce que j'aime, c'est la réaction qu'il a eue, cet homme, face à son péché. Ah, ça a mis du temps, le Seigneur a pris les gants, on va dire, pour lui révéler. On ne sait pas pourquoi il a attendu tant de temps, mais on sait que la façon dont cet homme a réagi, c'est une bénédiction pour nous montrer que Dieu, quel que soit le pire endroit dans lequel on a pu tomber, le pire péché qu'on a pu commettre, le Seigneur est puissant pour nous pardonner. Regardez le psaume 51, il en était question ce matin, de la fin, mais nous on va lire le début. Psaume 51, Le contexte, c'est exactement ce moment où David a appris qu'il avait péché. Il n'est même pas rendu compte par lui-même. Dieu a dû envoyer un prophète. Et là, à un moment donné, il se rend compte des choses. Au verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. » Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Au verset 11, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Vous avez vu la prière de cet homme? Vous avez vu la crainte qu'il a? Il s'est rendu compte qu'il a péché, ou il a péché contre beaucoup de monde, mais il a surtout péché d'abord contre Dieu. Et la crainte qu'il a, c'est « Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face ». Et voilà peut-être, frères et sœurs, cet après-midi, le seul endroit qui est vraiment le pire endroit de tous, c'est quand on se retrouve loin de la face de Dieu. Quand on se retrouve loin de la présence de Dieu. Et vous savez pertinemment, ce qui nous met dans cette situation où on se retrouve loin, Adam et Ève l'ont bien vite compris, que c'est le péché. La désobéissance, le fait de vouloir décider par nous-mêmes comment conduire notre propre vie, c'est ça qui nous pousse loin de la face de l'Éternel. Bien sûr, ce n'est pas question de que Dieu se retire de nous, Dieu il est omniprésent. Mais c'est que ça, la manifestation de sa présence par contre n'est pas la même. Justement, dans le psaume 139, il dit « Si je vais à l'autre bout de la terre, tu es là. Si je vais à l'extrémité du monde, tu es toujours là. » Si je prends les ailes de l'aurore, etc., vous connaissez de ce passage. Le Seigneur est partout. Mais quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui refuse de reconnaître son péché, quelqu'un qui refuse de faire cette prière que David a faite, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, mais il se retrouve loin de Dieu, spirituellement parlant. Et il se retrouve sur la mauvaise voie. Parce que nous avons été créés pour être en communion avec Dieu. Mais le péché nous en sépare. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a dû se retrouver, je vais dire ça comme ça, au mauvais endroit. Où c'est que vous auriez mis un homme innocent, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais énervé quelqu'un, qui n'a jamais fait de mal? Est-ce que cette personne, vous l'auriez mis sur une croix? Vous savez que la croix, c'était le pire châtiment à l'époque. Le pire criminel, le pire méchant qui voulait, le pire rebelle, on le mettait sur une croix pour que ça fasse un exemple à tout le monde. Est-ce que vous auriez mis le Seigneur Jésus sur la croix? C'est sûr, intellectuellement parlant, personne ne l'aurait mis. Mais c'est sans nos péchés qui l'ont poussé à aller sur la croix. Est-ce que c'était le bon endroit pour le Seigneur Jésus? Logiquement, non. Humainement, non. Mais dans le plan de Dieu, c'était le bon endroit. Parce que le Seigneur Jésus a porté nos péchés. Il s'est volontairement livré à la mort, la Bible nous dit, pour que la voie de l'éternité puisse s'ouvrir. Parce que si nous voulons marcher sur la voie de l'éternité, il faut qu'elle puisse être ouverte. Et le péché était là, comme des obstacles, comme si le chemin était rempli d'arbustes et de ronces. Impossible d'avancer. Vous avez déjà marché dans les ronces, et dans des rosiers énormes là, et vous essayez de vous frayer un chemin. À un moment donné, vous êtes tellement attaché par tous les habits que vous ne pouvez plus avancer. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est comme si Jésus était venu et avait choisi de marcher, peu importe la douleur, peu importe le sang qui coulait, il avait choisi de marcher et d'emporter tout ça sur son passage pour que la voie de l'éternité soit ouverte, pour que nous puissions marcher sur la voie de l'éternité. Encore faut-il choisir de suivre Jésus. Encore faut-il choisir de l'accepter dans notre cœur. Jésus était au bon endroit finalement. Et nous pouvons maintenant marcher sur cette voie. Je vous lis ce verset, je pense qu'il est adapté. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Avec quelle lessive faut-il utiliser pour laver notre conscience? Est-ce qu'il faut l'eau de Javel, concentrée? Est-ce qu'il faut carrément des produits chimiques, de la soude ou de l'acide sulfurique? Est-ce que ça suffira à laver notre conscience? Non, rien dans ce monde. Rien ne peut laver la conscience d'un homme, sauf le sang de Jésus qui a coulé, et sauf son sacrifice. Peu importe l'endroit où nous en sommes, le Seigneur est celui qui est capable de nous en sortir. Et je voudrais terminer avec l'exemple de quelques personnes qui se sont retrouvées, eux, dans des positions spéciales, dans des endroits un peu bizarres. On a l'impression même qu'ils ne sont pas au bon endroit, mais qu'ils se sont retrouvés là, non pas à cause de leur péché, ils se sont retrouvés là à cause de leur soif d'entendre le Seigneur. Et des fois, on se retrouve dans des endroits comme ça, où les gens peuvent nous juger parce qu'ils ne comprennent pas ce qui nous arrive. Mais si nous sommes motivés par chercher le Seigneur et par entendre sa voix, croyez-moi, le Seigneur va nous bénir. Pensez à Zachée qui est dans son arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, dans Luc chapitre 19, verset 5, pour ceux qui le notent, Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Est-ce que c'était le bon endroit là, de se trouver dans l'arbre? C'était spécial quand même, vous imaginez? Il y a un défilé dans une rue, le président qui passe, et vous voyez un homme qui est dans un arbre, ça fait quand même spécial, alors que tout le reste de la foule était par terre. Mais vous connaissez les circonstances. Mais en tout cas, on voit que le Seigneur Jésus, à cet endroit-là précisément, il s'est arrêté, il a regardé vers Zachée, il a dit « Hâte-toi de descendre ». Jésus avait une parole pour Zachée, parce que Zachée cherchait quelque chose de la part de Jésus. Cet après-midi, est-ce que vous êtes venu avec ce désir d'avoir une parole, de voir le Seigneur, mais pas seulement le voir, pas le voir physiquement, ça, de toute façon, c'est pas possible, mais le voir spirituellement agir et intervenir dans votre vie? Si vous êtes venu avec ce désir-là, le Seigneur est puissant pour intervenir. Le lépreux qui était dans la foule, est-ce que c'était la bonne place pour lui? Selon la loi, il devait être justement loin de la foule. Il devait être dans les grottes et à l'extérieur de la ville. Il devait s'isoler de toutes les autres personnes. Mais ce lépreux a choisi, encore une fois, de faire abstraction de ces choses pour s'approcher d'un cœur sincère du Seigneur. Et vous savez ce qui lui est arrivé à ce lépreux. Il était motivé par une seule chose. S'il pouvait, pendant une minute, pendant 30 secondes, faire une prière à Jésus. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Est-ce que c'était bien? Ben, quand on connaît l'histoire, quand on sait que Jésus a étendu sa main et a purifié cet homme intégralement, instantanément, on sait qu'il a eu la bonne attitude. Mais est-ce que c'était sa place normalement? Non. La foule affamée qui se retrouve dans le désert, la foule qui est là, languissante et abattue, nous dit le Seigneur Jésus, et qui se retrouve dans un lieu désert au moment où c'est le soir, et tout le monde est là, ils se disent, mais comment on va faire? Comment on va acheter à manger? Les disciples sont les premiers inquiets à savoir comment ça va se passer. Et Jésus, vous savez comment il est intervenu? Il a multiplié le pain. Il a répondu exactement aux besoins de la foule. Mais pourquoi est-ce que cette foule s'est retrouvée dans cet endroit? Parce qu'elle voulait entendre le Seigneur. Elle voulait bénéficier de son enseignement. Et ces personnes se sont retrouvées dans ces situations particulières, mais à chaque fois que c'était motivé par un désir de suivre le Seigneur a pourvu. Et même pour les autres personnes qui se sont retrouvées dans des mauvais endroits parce qu'ils ont glissé sur une mauvaise voie, parce qu'ils ont eu la bonne attitude, le Seigneur a répondu. Alors cet après-midi, est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On va incliner nos fronts, fermer les yeux. Vous savez que ce n'est pas parce qu'on est même au bon endroit et qu'on a l'impression de faire les bonnes choses qu'on est forcément en train de faire ce que Dieu veut. un pharisien se trouvait dans une église. Il était en train de faire des bonnes choses, il était en train de prier. Dans une église en train de prier. Ah ben c'est sûr, Dieu va le bénir. Oui, mais Dieu ne regarde pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Voilà pourquoi il faut faire cette prière. Seigneur, sonde-moi, connais mes pensées. Regarde ce qu'il y a au fond de mon cœur, Seigneur, cet après-midi. Cet homme, ce pharisien, même dans son église, en train de prier, il avait le cœur qui était loin de Dieu. Alors que le publicain, en train de se repentir, en train de demander la miséricorde de Dieu, il était en train de s'approcher de Dieu avec sincérité. Cet après-midi, nous avons chacun pour notre part le choix. Ce n'est pas parce que nous sommes là que nous sommes approchés de Dieu. Mais le Seigneur regarde si nous avons au fond du cœur ce désir d'être près de Lui. Si nous pouvons nous approcher, je le répète, c'est parce que Jésus a inauguré cette route au travers de son sacrifice. Il nous a donné accès à Dieu. Et si nous ne pouvons nous approcher, c'est seulement à cause de ce sacrifice. Mais maintenant, il nous laisse la liberté. Et combien nous avons intérêt à faire cette prière. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Sonde mon cœur. Sonde mes pensées. Sur quelle voie est-ce que je suis en train de marcher maintenant? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je suis dans les bons endroits où Dieu veut que je sois? Ou est-ce que je suis dans les endroits qui ne sont que les conséquences de ma désobéissance? Ou de ma paresse? Ou du mépris que j'ai eu de l'autorité? De mon insoumission? Est-ce que je ne suis pas dans l'épuisement? Ou la honte? Dans quel endroit est-ce que je me trouve? Ce qui est sûr, c'est que peu importe l'endroit, le Seigneur est capable de nous en sortir si nous manifestons l'attitude de cœur qui lui plaît. Comme David, faire cette prière, « Lave-moi, purifie-moi, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut. » Peut-être quelqu'un a connu la joie du salut, mais maintenant est en train de vivre le salut comme un fardeau. Et le Seigneur est celui qui veut rétablir. Prions le Seigneur un instant. Éternel, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour, Seigneur, cette prière de David que nous pouvons lire encore aujourd'hui. Combien nous la comprenons, cette prière. Et nous voulons, cet après-midi, faire un point dans notre existence. Réfléchir, oui. Et regarder si nous sommes sur une bonne voie ou sur une mauvaise voie. Seigneur, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Tu vois peut-être ce qui fait un obstacle dans notre cœur, dans un cœur. Seigneur, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Éprouve nos pensées. Tu vois les pensées qui sont bonnes. Tu vois les pensées qui ne sont pas bonnes. Seigneur éternel, aide-nous à prendre le dessus sur ces choses. Seigneur, par ta force, à cause de ton sacrifice, nous croyons que tu es celui qui peut nous libérer, nous sortir des pires endroits, de la pire épreuve, de la pire conséquence même de notre péché, parce que tu es le Dieu qui se plaît à accorder la miséricorde aux malheureux. Et comme David, nous voulons dire, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de moi selon ta bonté. Seigneur, que ta bonté se manifeste envers une personne encore cet après-midi. Oh, et que ton nom puisse être glorifié de la façon dont tu vas intervenir pour cette personne. Amen. Amen. Si quelqu'un plutôt a le besoin de venir, de s'approcher, nous vous laissons l'occasion au travers d'un chant qui va être repris ou qui a été préparé pour l'occasion. Pendant ce chant, si vous voulez que nous puissions prier avec vous, n'hésitez pas à vous approcher.